Donc nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 10. Nous allons lire le chapitre en entier. Apocalypse chapitre 10, commençons au verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous avons ici donc une pause, premier mot sur la feuille, une pause entre les trompettes numéro 6 et numéro 7. Cela est parallèle, bien sûr, à la pause que nous avons vue entre l'ouverture du sixième sceau et du septième. Et ces pauses nous permettent de souligner à la fois à l'apôtre Jean, mais aussi à nous, à l'Église, de permettre de souligner quelle est la situation de l'Église, quel est son appel au milieu de tout ce qui se passe dans la vision des sceaux entre le sixième et le septième sceau. Nous avons eu la vision de l'Église. Tout d'abord, l'Église qui marchait dans ce monde comme une armée représentée par les 144 000. Et ensuite, la vision de l'Église qui se tenait devant le trône de Dieu et de l'agneau dans la gloire. Et ce qui ressortait de cela, c'est que Dieu a scellé son Église. L'Église va sortir de la grande tribulation. Elle va entrer dans la gloire parce que Dieu la protège, parce que Dieu la garde. Et personne ne sera perdu, aucun enfant de Dieu ne sera perdu dans ce monde. Il entrera dans la gloire pour louer le Seigneur pour l'éternité. Et donc au milieu des jugements qui sont révélés dans tous les sceaux, il y a cette pause qui rappelle à l'Église ce qui reste sur terre. Qu'elle ne doit pas avoir peur de ses jugements, qu'elle ne doit pas avoir craindre ses jugements, parce qu'elle est scellée par Dieu. Et elle entrera avec certitude dans la gloire. Ici, entre les trompettes 6 et 7, il y a une autre pause. Et cette vision commence donc au chapitre 10, elle va nous mener jusque vers le milieu du chapitre 11, avant la septième trompette. Et elle décrit l'Église qui reçoit ce livre de la part de l'ange, ce livre qui est la parole de Dieu. Elle est appelée, l'Église est appelée à rendre témoignage à la parole de Dieu, même dans un monde qui la persécute, même dans un monde qui est sous les jugements de Dieu. L'Église doit continuer à annoncer la bonne nouvelle, le chapitre 10, se termine avec cet ordre qui est donné, ce commandement, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'est l'ordre qui est donné à l'Église d'aller dans le monde et d'annoncer cette parole. Au chapitre 11, nous verrons les deux témoins qui sont persécutés. Et cela explique, ensemble, tout cela explique pourquoi le monde est jugé. Le commentateur le résume en disant « Les méchants souffrent parce qu'ils ont rejeté le message des témoins et qu'ils les ont persécutés au lieu de les écouter. » Et le chapitre 10, donc, que nous voulons voir ce matin, nous dit que la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ est celle qui reçoit, celle qui tient fermement et celle qui rend témoignage à la parole de Dieu. Tout comme Israël, dans l'Ancien Testament, était appelé à être une lumière pour les nations, l'Église reçoit l'ordre de rendre témoignage à l'Évangile et d'être une lumière dans un monde qui est hostile. Et donc nous avons plusieurs raisons dans ce passage. La première raison pour laquelle l'Église, les chrétiens, le peuple de Dieu, doit rendre témoignage à la parole de Dieu, c'est la gloire, deuxième mot sur la feuille, la gloire du Rédempteur qui est l'auteur du message. Et le début de cette vision nous le montre. Pourquoi est-ce qu'on devrait, on doit être appelé le peuple du livre, ce peuple qui garde la parole? À cause de la gloire du Rédempteur, de notre Rédempteur, qui est l'auteur de ce livre. Verset 1, « Je vis un ange, un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » C'est un deuxième ange puissant que nous voyons dans ce livre de l'Apocalypse. Le premier, nous l'avons vu au chapitre 5, était déjà question d'un livre. En Apocalypse 5, verset 2, nous lisons « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et ce n'est que le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est digne d'ouvrir ce livre qui est la révélation, qui est, pardon, le plan, le dessein de Dieu pour toute l'histoire. Et le Seigneur Jésus-Christ prend ce livre et en ouvre les sceaux et accomplit la volonté de Dieu pour l'histoire. Ici, nous avons un deuxième ange, un autre ange puissant, et il tient un autre livre, plus petit, dans sa main. Il tenait dans sa main un petit livre, verset 2, un petit livre ouvert. Au chapitre 5, le Seigneur Jésus-Christ a pris le livre. Et c'est lui qui en a ouvert les sceaux pour exécuter la volonté de Dieu pour l'histoire. La volonté qui inclut à la fois les jugements, mais aussi le salut par la foi en Jésus-Christ. Ici, c'est un petit livre qui est ouvert. C'est une portion de cette volonté de Dieu, une portion qui est révélée. Et c'est une image de la parole de Dieu, de la Bible, cette révélation que Dieu donne à son peuple. Mais cet ange qui tient ce livre, il révèle trois choses. Il révèle tout d'abord la divinité de Christ, troisième mot sur la feuille. Les descriptions de cet ange ont tellement d'indicateurs de divinité que beaucoup de commentateurs pensent que cet ange, en fait, est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il parle d'être enveloppé d'une nuée, d'avoir l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, d'avoir le visage comme le soleil et les pieds comme des colonnes de feu. Ce sont des descriptions de divinité. Nous savons que Dieu est enveloppé de nuées. Nous savons que son trône, nous l'avons vu au chapitre 4, que son trône est entouré de l'arc-en-ciel. Nous savons que c'est son visage qui brille comme le soleil. Et c'est pourquoi que beaucoup de commentateurs pensent que cet ange doit doit être en fait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais ce n'est pas l'interprétation qu'il faut retenir. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il y a toujours une distinction entre le Seigneur Jésus-Christ et les anges. Même si dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui parlent de l'ange de l'Éternel, et on peut très bien attribuer cela au Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une distinction entre le Seigneur Jésus-Christ et les anges. Nous avons vu ça, par exemple, au chapitre 1er. Le Seigneur Jésus-Christ se présente comme le Fils de l'homme qui se tient au milieu des chandeliers et il tenait les anges dans sa main. Au chapitre 5, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est révélé comme le lion de la tribu de Juda, comme l'agneau qui a été immolé, et les anges le servent et l'adorent. Dans le livre de l'Apocalypse, il n'est pas possible que le mot « ange » se réfère au Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, l'ange, cet ange puissant qui vient, est envoyé par le Seigneur Jésus-Christ et il représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est un ange qui sert le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire, un ange qui reflète la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ce Seigneur Jésus-Christ, ce maître qu'il sert parfaitement et il reflète sa gloire. Comme nous, nous sommes appelés à refléter la gloire de Christ. Quand nous, nous entrerons dans la gloire et que nous serons transformés à l'image de Christ, nous serons comme lui. Nous ne serons jamais Dieu le Fils. Par contre, nous sommes ici transformés à son image, de gloire en gloire, par l'œuvre de l'Esprit Saint. Et donc ici, l'ange qui porte l'image du Seigneur Jésus-Christ reflète la gloire de son Maître, alors qu'il vient apporter ce message à l'apôtre Jean. Et c'est la même chose, nous aussi, nous sommes pas seulement appelés à apporter le message de l'Évangile, mais à avoir une vie transformée, à avoir du fruit, à porter du fruit qui témoigne de cette foi, de cette nouveauté de vie qui est la nôtre en Jésus-Christ. Tellement de passages, je pense à Jacques en particulier, cette discussion entre la foi et les œuvres. Nous sommes, nous aussi, appelés à refléter la gloire de Christ, comme cet ange. Mais voilà, un ange qui reflète la gloire et qui révèle la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mais il reflète aussi, deuxièmement, la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Quatrième mot sur la feuille. Il révèle le Seigneur Jésus-Christ comme le rédempteur, celui qui a accompli la rédemption, comme nous raconte l'histoire de l'Exode. Et nous avons déjà vu et nous allons voir des allusions au livre de l'Exode, des symboles de ce livre que nous retrouvons ici dans l'Apocalypse. Quand Israël a quitté l'esclavage de l'Égypte et marché vers la terre de la promesse, c'est la nuée de la gloire de Dieu qui descendait sur le tabernacle. On se rappelle aussi que le visage de Moïse a rayonné avec l'éclat du soleil après qu'il ait parlé avec l'Éternel. On sait que c'est la colonne de feu qui guide et qui a protégé le peuple d'Israël dans le désert. On a ces éléments ici dans le chapitre 10 de l'Apocalypse. On a aussi l'arc-en-ciel qui, je vous rappelle, symbolise la miséricorde du Dieu de l'Alliance. Et donc cette vision dépeint non seulement la divinité du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi la rédemption, sa délivrance qu'il est venu accomplir pour son peuple. Les six premières trompettes, nous avons vu, annoncent des malheurs qui viennent, des terreurs qui tombent sur le monde. Jean reçoit donc ce rappel de cette délivrance que le Seigneur Jésus-Christ est le Rédempteur. Le Rédempteur, celui qui va délivrer son peuple, va les amener à connaître un exode hors du monde pour entrer dans la gloire. Il va les conduire vers la terre de la promesse, une meilleure terre, une nouvelle terre, un monde éternel. Et tout comme Noé est entré dans l'arche et qu'il en est sorti après le jugement pour entrer dans un monde nouveau. L'Église qui est unie au Seigneur Jésus-Christ va passer à travers les jugements qui tombent sur ce monde, va passer à travers la grande tribulation et va entrer dans une nouvelle terre, dans un monde qui est nouveau, dans de nouveaux cieux, libre, libre de tout péché, libre de tout mal. Ce que Dieu a fait pour Noé, ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, en les sauvant par le jugement de leurs ennemis, et en les amenant dans une terre nouvelle, il va le faire en sauvant son Église à travers le jugement de ce monde. Il va nous faire entrer dans de nouveaux cieux et sur une nouvelle terre. L'ange révèle la rédemption du Seigneur Jésus-Christ par les images que nous avons, qui nous rappellent le livre de l'Exode. Il souligne la divinité du Seigneur Jésus-Christ, il souligne la rédemption, mais il souligne aussi, troisièmement, la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu il y a quelque temps, nous avons fait allusion au chapitre 7 du livre de Daniel. Et je vous rappelle cette vision où nous avons le Fils de l'homme, et une vision très importante donc pour le livre de l'Apocalypse, le Fils de l'homme qui s'est approché de l'Ancien des Jours, du Père, sur les nuées. Et il reçoit la domination, une domination qui n'aura pas de fin. Ici, nous avons l'ange qui est enveloppé d'une nuée et qui rappelle, qui renvoie à cette image, à cette vision de Daniel et qui souligne la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ qui envoie cet ange à Jean. Cet ange, verset 2, qui apparaît immense, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et dans le langage biblique, quand on pose le pied sur quelque chose, on exerce une domination sur cette chose. Et la terre et la mer ici représentent toute la création. Et donc cela souligne que le Seigneur Jésus-Christ est souverain sur toute la création. Il est le souverain sur toute chose. Et cela est important à souligner parce que plus tard, on va voir le dragon Satan qui va susciter des bêtes. L'une viendra de la terre, l'autre de la mer. Mais avant que cela n'arrive, nous avons ce rappel ici que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est souverain sur toute chose. C'est lui qui règne. Il a déjà posé les pieds sur la terre et sur la mer. C'est lui qui est souverain sur toute chose. Et cette souveraineté est soulignée par le cri de l'ange. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Le lion, nous le savons, est le roi de la jungle. C'est un animal qui est souverain. Et le Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu, chapitre 5, est déclaré comme le lion de la tribu de Judas. Et c'est en tant que lion et en tant qu'agneau qu'il a reçu le livre et qu'il exerce sa souveraineté. Nous l'avons vu dans l'ouverture des sept sceaux. C'est lui qui les ouvre. C'est lui qui ouvre les sceaux de l'histoire. Et maintenant, il donne à cet ange ce livre, une portion de cette volonté qui est révélée, c'est la parole de Dieu. Il la donne à Jean. Mais rappelons-nous donc le but de cette vision. C'est une pause entre les trompettes 6 et 7. Et le but, c'est que Dieu veut nous montrer quelque chose concernant l'Église, notre situation, quelque chose pour que nous comprenions notre identité, notre destinée, alors que nous voyons tous ces jugements se dérouler autour de nous. Et l'ange donc nous rappelle ici, avec toute cette imagerie que nous avons du livre de l'Exode, que le peuple de Dieu, les chrétiens sont le peuple saint qui appartient à Dieu. Et il avance à travers ce monde qui connaît les jugements de la part de Dieu, ce monde qui connaît les jugements qui sont annoncés par les trompettes ou qui sont révélés par les sceaux. Mais le croyant n'appartient pas, sixième mot sur la feuille, il n'appartient plus à ce monde. Il n'appartient plus à ce monde. Il est pèlerin dans ce monde. Il est étranger sur la terre. Il est en route vers une demeure céleste, une demeure éternelle. Nous ne sommes pas propriétaires dans ce monde. Nous sommes des locataires. Rappelez-vous Abraham. Abraham qui vivait sous des tentes, mais il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. On parlera plus tard de cette cité. Mais nous sommes comme Abraham. Nous ne sommes plus dans ce monde. Nous ne sommes plus, pardon, de ce monde. Même si nous sommes dans ce monde, nous n'appartenons plus à ce monde. Nous en avons été délivrés. Et nous sommes en route vers notre demeure éternelle. Paul le dit en Philippiens 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, parfois on réfléchit comme le monde. Et on parle en termes de ce monde, on parle de nos relations familiales, on parle de notre travail, on parle de notre position sociale, on parle de ce que nous avons sur notre compte en banque, on parle des activités que l'on aime faire. Et ces choses sont vraies de nous d'une certaine manière. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, ce qui est le plus important en ce qui nous concerne, c'est que nous avons été appelés hors du monde. C'est que nous avons été appelés hors du monde. Nous avons été délivrés, nous avons été lavés de nos péchés. Nous appartenons à Dieu. Nous vivons pour lui. Nous vivons pour le célébrer et pour chanter sa gloire pour toujours. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Cette grâce qu'il a révélée et manifestée en Jésus-Christ. Et c'est ce qui est le plus important pour nous. C'est ce qui est le plus important. Nous sommes des pécheurs rachetés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, du Sauveur qui est souverain sur l'histoire. Dieu a déterminé depuis toujours que celui qui est uni à Christ ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Il passera par la grande tribulation pour entrer dans la gloire. Et c'est ce qui nous décrit aujourd'hui. Nous voyageons dans ce monde, nous traversons ce monde, nous sommes en route vers notre demeure éternelle. Dieu nous guide comme il a guidé le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il nous guide vers notre demeure éternelle. Il nous guide par son esprit, nous guide par sa parole. Cette ressource dont nous avons besoin pour mieux nous connaître, pour saisir, comprendre notre appel, pour comprendre notre nouvelle identité et vivre cette nouvelle identité, cette ressource est ce petit livre que tient l'ange dans sa main. Cette ressource est la parole de Dieu, septième mot sur la feuille. Notre ressource clé dans ce monde est la parole que nous devons recevoir, sur laquelle nous devons nous appuyer, que nous devons entendre, méditer, obéir. Et c'est pour ça que l'ange apparaît à Jean avec ses symboles qui reflètent la divinité, la souveraineté, ces symboles pris du livre d'Exode, qui parlent de l'autorité de celui qui l'envoie, du Seigneur Jésus-Christ. Et il tient dans sa main la parole de Dieu. La première raison, donc, dans ce passage pour lequel nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons être aussi reconnus comme étant le peuple du livre. Pourquoi nous devons recevoir la parole, croire dans son message, défendre ce livre, annoncer cette merveilleuse nouvelle du salut en Jésus-Christ, mais aussi annoncer les jugements de Dieu. C'est à cause de la gloire de son auteur, la gloire de notre Rédempteur, du Seigneur Jésus-Christ. Le monde, lui, voudrait que nous soyons impressionnés par son enseignement, par son histoire, par ses accomplissements, par la perspective mondaine sur tout. Mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons la révélation de Dieu, qui est bien plus certaine, bien plus sûre que tout ce que ce monde peut nous apporter. Et Le livre de l'Apocalypse est rempli de cela. Nous avons vu par exemple au début de ce livre, au chapitre 1, verset 1, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit qu'il a reçu une révélation de la part du Père qu'il va donner aux églises à travers Jean. Il le fait savoir en envoyant son ange à son serviteur Jean. Ici, au chapitre 10, nous avons cela presque dépeint devant nos yeux. La révélation est donnée. Nous avons dans la main de l'ange la parole de Dieu. Cette parole que nous avons acceptée, croire, défendre, proclamer à cause de la gloire de son auteur. C'est une chose importante à se rappeler aujourd'hui parce que nous vivons dans un monde qui est hostile, huitième mot sur la feuille, qui est hostile à la parole de Dieu. Et donc il y a des tentations de faire des compromis, de trouver des moyens d'éviter une persécution. On va essayer d'arrondir les angles. On peut faire certaines choses comme le monde les fait. Et parfois, on va même utiliser l'argument que cela peut nous aider dans notre témoignage. On cherche à éviter le conflit. Mais nous devons nous rappeler qu'il s'agit ici de la parole de Dieu. Que cette parole a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est glorieux, qui est souverain, qui est notre Rédempteur. Quand on réalise que c'est lui qui nous donne par la main de son ange, cet ange qui vient et qui nous donne cette parole, quand on se rappelle de cela, on dira non au compromis. On n'acceptera ni les messages du monde, ni les méthodes du monde, parce que l'auteur de cette parole est un auteur qui est glorieux. Quand nous le voyons, lui, dans la gloire, nous bannirons toute pensée de capituler devant ce monde ou de faire des compromis. Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné en Jean chapitre 6, quand après qu'il a nourri des milliers de personnes, il a parlé du pain de vie. Ce chapitre qui est rempli de toutes ces bonnes doctrines, parlant de substitution, d'expiation. Le résultat, c'est que la foule est partie. Et Jésus va confronter les 12 disciples et il va leur demander si eux aussi voulaient rejoindre ceux qui méprisaient la parole, ceux qui se sont éloignés du Seigneur Jésus-Christ. C'est Pierre qui répond au verset 68, Jean 6, 68. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Neuvième mot sur la feuille. Et ce n'est pas différent aujourd'hui. Nous recevons, nous acceptons, nous croyons, nous défendons cette parole parce que celui qui nous la donne est l'auteur de la vie, c'est le seul auteur de la vie. C'est le seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ donc, qui envoie cet ange puissant, qui nous parle de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, de sa rédemption qu'il est venu accomplir, et de sa souveraineté sur toute chose. Mais la deuxième raison pour laquelle nous devrions rendre témoignage à la parole de Dieu, c'est la certitude de son accomplissement. Dixième mot sur la feuille. La certitude de son accomplissement. Verset 3. Quand l'ange cria d'une voix forte comme rugit un lion, quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Dans la Bible, le tonnerre représente la majesté de Dieu. Cette majesté qui détruit toute opposition quand il vient en jugement. Et ici donc, nous avons sept tonnerres qui font entendre leur voix. Ces sept tonnerres parlent aussi du jugement de Dieu sur la terre. Nous avons vu à la fin du chapitre 9 qu'après la sixième trompette, l'humanité idolâtre refusera toujours de se repentir, ne se détournera pas de ses idoles, de sa méchanceté. Et le cri de l'ange reçoit donc comme réponse les sept tonnerres qui annoncent d'autres jugements à venir. Et Jean s'apprête, verset 4, à écrire le message des sept tonnerres, comme il avait fait précédemment avec le message des sceaux, par exemple. Mais nous lisons qu'il en était empêché. Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » Jean ne devait pas retranscrire le jugement des sept tonnerres. Pourquoi? Je vous laisse imaginer toutes sortes d'explications, d'interprétations qui existent aujourd'hui. Mais la réponse, c'est que nous ne savons pas. Rien n'est dit à ce sujet. Et la meilleure explication, en fait, elle vient de l'ange lui-même. Versets 5 à 7, « L'ange que je voyais debout sur la terre, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » L'ange anticipe la septième trompette qui est sur le point de sonner. Et il déclare en fait que quand Christ reviendra pour apporter le jugement au son de la trompette, il apporte aussi la fin de l'histoire. Et ce sera quelque chose de rapide, comme l'éclair. Et donc Jean, il dit à Jean de ne pas écrire le message des sept tonnerres. C'est une image forte que l'on a ici. L'ange puissant lève la main droite pour jurer. Et il parle de la plus grande autorité. Il jure par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve. Et l'ange, en tant que témoin, ne jure pas seulement que son message est vrai, mais il jure que son message va certainement s'accomplir. Il n'y aura pas de délai, mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait dans la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ce passage fait référence à, bien sûr, encore une fois, à l'Ancien Testament, et en particulier au livre de Daniel, chapitre 12. On voit un autre ange puissant, un autre ange qui reflétait la gloire de Dieu, qui reflète la gloire de Christ. Et il interagit avec Daniel. Vous pourrez relire ce chapitre, ce passage à la maison, ce passage. Donc, où Daniel veut savoir combien de temps va durer la tribulation. Et au verset 6 et 7, nous lisons: l'ange leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ici, en Apocalypse 10, alors que la septième trompette elle est sur le point de sonner, l'ange, est-ce que c'est le même ange qu'en Daniel? On ne sait pas. Mais cet ange donc dit qu'il n'y aura plus de délai. Et au verset 7, il ajoute qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce qu'on entend par le mystère de Dieu? Ce n'est pas comme pour un détective qui doit essayer de résoudre des énigmes pour comprendre le mystère. Non, quand la parole de Dieu, quand la Bible parle de mystère de Dieu, il parle de ce plan de rédemption, 11e mot sur la feuille. Ce plan de rédemption, ce plan de Dieu que l'on ne peut connaître que de la manière dont Dieu l'a révélé. C'est lui qui le dévoile, c'est lui qui le fait dérouler ce plan de rédemption. Et donc, on peut le connaître, la manière dont Dieu le révèle. Et l'ange jure que lorsque la septième trompette sonnera, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, ce plan de jugement et de salut, ce plan de rédemption sera amené à son accomplissement final et tous verront ce plan qui sera terminé, qui sera accompli. Et comme l'arc-en-ciel encercle le trône de Dieu, nous l'avons vu au chapitre 4, l'alliance sera entièrement accompli. L'ange puissant jure de la certitude de l'accomplissement. Et on retrouve cela, même les prophètes et les apôtres ont déclaré, parlé de la part de Dieu, qu'ils étaient les porte-paroles de Dieu. Et que la parole de Dieu aura son effet. Cela nous rappelle Ésaïe 55, verset 11. L'Éternel dit ainsi, « En est-il de ma parole qui sort de ma bouche ? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et l'ange donc affirme qu'avec la septième trompette qui sonnera, tous verront le plan de Dieu totalement et parfaitement accompli. Douzième mot sur la feuille. Tous verront que cela est parfaitement accompli, comme l'a annoncé, comme Dieu l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Nous avons donc ici la deuxième raison par laquelle nous devons recevoir la parole de Dieu, nous tenir fermement sur cette parole de Dieu, sans faire de compromis, proclamer cette parole de Dieu au monde. La première raison, nous l'avons vue, à cause de la gloire de son auteur. La deuxième raison, c'est à cause de la certitude que tout ce qu'elle annonce va s'accomplir. Tout va se réaliser. Pourquoi se tourner vers autre chose? Pourquoi se tourner vers les messages du monde alors que nous avons ici la parole que Dieu donne qui va s'accomplir? Nous avons la vérité. Et tout ce que Dieu dit dans sa parole, il l'accomplit. Nous avons la description de ce monde dans lequel nous vivons. Nous avons des événements qui se sont écoulés, qui vont s'écouler. Nous avons les promesses de Dieu qui vont s'accomplir, alors que les promesses du monde, elles, ne sont que du vent, elles ne tiennent pas debout. On le voit tout au long de l'histoire. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit en Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et l'ange jure par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve. Qu'est-ce qu'il dit par cela? Il dit qu'il jure par le Dieu qui est éternel, par celui qui vit au siècle des siècles, qui est éternel. Et c'est pour cela que ces choses vont arriver avec certitude, parce que Dieu est éternel. 13e mot sur la feuille. Il vit pour toujours. Il a dit, il a déclaré des choses dans sa parole et il sera là pour que sa parole s'accomplisse. Il est le créateur de toutes choses. Il est le souverain sur toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant. Il a la puissance d'accomplir parfaitement tout ce qu'il a dit, toute sa volonté. Il le fera. Alors pour nous, comment résister dans ce monde où la majorité des personnes autour de nous suivent une fantaisie? Comment éviter de tomber dans l'erreur, l'erreur de ce monde, toutes ces personnes qui croient autre chose que la vérité, ces personnes qui ont l'apparence d'être cool, mais qui se moquent de la Bible, qui se moquent des chrétiens? Comment faire? La réponse est en s'appuyant sur la parole de Dieu, en sachant ce qu'elle est, d'où elle vient, qui nous l'a donnée, sachant qu'elle s'accomplira parfaitement. Celui qui nous l'a donnée est autre que le Dieu créateur, qui est souverain sur toutes choses, et sa parole s'accomplira avec certitude. Tous les systèmes humains, nous le voyons dans le monde, nous le voyons aujourd'hui, tous les systèmes humains, s'écroule, nous voyons les jugements qui tombent sur le monde pour avertir le monde, pour appeler ce monde à la repentance, ce monde qui se rebelle contre Dieu. Comment tenir aujourd'hui dans ce monde? Comment avoir un espoir dans ce monde? En nous tenant sur la parole de Dieu. Comment faire face dans notre vie personnelle aux épreuves? Comment faire face aux calamités qui tombent sur notre génération? Comment le faire avec une foi joyeuse, une foi pleine d'espérance, en s'appuyant sur la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean 8, versets 31 à 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 31 à 32. La première raison pour croire, pour accepter, pour saisir cette parole, pour nous appuyer sur cette parole, est à cause de la gloire de son auteur. La deuxième raison et parce que tout ce qu'elle déclare va s'accomplir avec certitude. La troisième raison pour laquelle nous devons nous appuyer et rendre témoignage à la parole de Dieu est parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. 14e mot sur la feuille. À partir du verset 8, nous voyons Jean est appelé à s'approcher de l'ange et à recevoir ce petit livre, ce livre qui contient la révélation de Dieu, ce livre qui est ouvert, contrairement à l'autre, le grand livre qui est fermé et que le Seigneur Jésus-Christ ouvre. Ce livre-là est ouvert, donc c'est une révélation de Dieu pour les églises. Quatre choses que l'on peut tirer de cela. La première, c'est que cette vision nous rappelle que la Bible, la parole de Dieu, est la révélation, 15e mot sur la feuille, la révélation de Dieu à l'homme, que Dieu donne à l'homme. Pourquoi croyons-nous dans la Bible? Pourquoi la serrons-nous contre notre cœur? Pourquoi ne devons-nous pas nous compromettre avec le monde, avec l'enseignement du monde? Pourquoi proclamer la parole de Dieu? Pourquoi proclamer le message de l'évangile, de cette parole? Parce qu'il s'agit de la révélation que Dieu fait à l'homme. Une révélation qui annonce les jugements et le jugement à venir sur le péché, mais qui annonce aussi le salut par la foi en Jésus-Christ. Et Jean reçoit cette révélation de la main de l'ange puissant. Deuxième chose, puisque nous recevons cette révélation, nous devons nous appliquer à en saisir le message, 16e mot sur la feuille. Verset 9, j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le. Encore une fois, cela fait référence à un passage dans l'Ancien Testament, à Ézéchiel chapitre 2. Et dans le contexte d'Ézéchiel 2, il s'agit aussi d'un temps de jugement, de calamité. Il y a l'exil d'Israël, mais il y a aussi des promesses de délivrance. Et Ézéchiel reçoit un livre en rouleau au verset 9, Ézéchiel 2. Et ensuite, au verset 8, il entend cet ordre, « Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Et Jean reçoit cet ordre de prendre la parole de Dieu de cette manière, de telle manière qu'elle ne fait qu'un avec lui. Il doit manger ce livre, manger cette parole, afin qu'elle entre en lui, qu'elle pénètre en lui dans tout son être, qu'elle influence, qu'elle le touche dans tout son être. Et nous aussi, nous sommes appelés à être les gens du livre, à prendre ce livre, à avaler ce livre. Cela implique des efforts à mastiquer, à digérer, à étudier cette parole, à ruminer cette parole. C'est notre pain quotidien. Il faut saisir le message de ce livre. C'est une révélation. Il faut saisir le message. Mais en faisant cela, troisièmement, on peut s'attendre à une expérience, 17e mot sur la feuille, une expérience qui est à la fois douce et amère. Versets 9 et 10, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. La parole de Dieu est douce, est agréable, avec ce message de réconfort, ce message d'assurance, de vie éternelle pour ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus doux, il n'y a rien de plus agréable d'entendre ces promesses pour ceux qui sont en Christ. Nous avons lu tout à l'heure le psaume 19 qui parle de cette parole de Dieu qui restaure l'âme, qui rend sage l'ignorant, qui réjouit le cœur, qui éclaire les yeux. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce monde qui a de tels effets? Et David va poursuivre en disant que la parole et que les jugements de Dieu sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et des croyants de toute génération ont fait l'expérience de cette parole qui est douce à leur cœur et qui réjouit le cœur. Mais en même temps, ce message doux de bénédiction en Christ s'accompagne aussi d'un message amer. Un message à la fois de jugement sur le péché. Mais il y a aussi l'idée que celui qui croit et qui annonce la parole de Dieu dans un monde qui est hostile, dans un monde qui est jugé, Il connaîtra aussi de l'amertume, parce qu'il connaîtra l'opposition du monde à cause de cela. On verra cela au chapitre 11, où il y a donc les deux témoins qui sont persécutés. Le commentateur résume en disant: l'apôtre ne doit pas seulement comprendre et assimiler le message de l'Évangile, mais encore en expérimenter la douceur et la souffrance, la croix, qui est toujours le lot de ceux qui l'annoncent avec fidélité. La douceur et l'amertume. Et la quatrième chose, donc, dans ce point, c'est qu'en recevant la parole, parce que c'est la révélation de Dieu, nous la digérons, nous en saisissons le sens pour nous nourrir, nous expérimentons sa douceur et son amertume. En faisant cela, nous réalisons que nous avons reçu de la part de Dieu un ordre de proclamer cette parole, 18e mot sur la feuille. Verset 11, puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et cet ordre n'est pas donné à Jean simplement. Jean l'a reçu bien avant. Rappelez-vous, Jean est âgé quand il écrit le livre de l'Apocalypse. Jean est sur l'île de Patmos à cause de son témoignage. Non, c'est l'Église qui reçoit cet ordre, qui est appelée à recevoir la parole de Dieu, à tenir fermement à la parole de Dieu, à saisir le message de la parole de Dieu, à digérer ce message, à digérer cette parole et à proclamer cette parole à ce monde qui est hostile, qui est sous le jugement de Dieu. Mais Jean n'est pas laissé sur le bord, simplement à regarder l'ouverture des sceaux, à entendre les trompettes, le son des trompettes. Non, Jean reçoit le livre. Il reçoit le livre. Et ce que cela dit, c'est que le plan souverain de Dieu pour le jugement et le salut par le sang de Christ, ce plan est annoncé par le témoignage de l'Église, 19e mot sur la feuille. Les pécheurs sauvés par grâce sont ceux qui sont appelés à proclamer ce message à d'autres pécheurs, afin que aussi soient sauvés par la même grâce. Même dans un monde qui les persécute, même dans un monde qui est hostile, même dans un monde qui est sous le jugement de Dieu, nous devons recevoir cette parole et aller l'annoncer à d'autres, à la proclamer. La victoire du peuple de Dieu est décrite ainsi, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 11. L'activité clé qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu est reçue par le peuple de Dieu, qu'elle est serrée contre le cœur sans compromis. Et nous devons tenir fermement à cette parole, même si certains nous disent qu'il faut devenir comme le monde pour avoir un impact sur le monde. C'est une erreur. Non, nous devons tenir à cette parole fermement, saisir son message et l'annoncer fidèlement à ce monde qui est perdu. Quatre applications. Trois applications, pardon. Pardon, c'est le quatrième point. Trois applications pour terminer. Étant donné que ce message vient vers nous de notre Rédempteur qui est souverain, nous sommes appelés à recevoir ce message avec obéissance et foi. Rejeter cette parole que Dieu nous donne, que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Rejeter cette parole, c'est rejeter le Seigneur Jésus-Christ lui-même. 20e mot sur la feuille. Rejeter cette parole, c'est rejeter le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Deuxième application, étant donné que nous sommes certains que cette parole va s'accomplir, que tout ce qu'elle dit va se passer, pourquoi se détourner de cette parole? Pourquoi accepter un autre évangile? Pourquoi écouter le message d'un monde qui meurt? Ce n'est que cette parole que Dieu nous a donnée, qui va s'accomplir avec certitude. Et donc nous devons tenir cette parole et nous appuyer sur cette parole sans faire de compromis. Et troisièmement, étant donné que nous avons cet ordre d'annoncer cette parole au monde, de proclamer à la fois le jugement sur le monde, sur le péché, mais aussi le salut qui est en Jésus-Christ. Nous devons chercher à annoncer cette bonne nouvelle, cette parole autour de nous, par tous les moyens possibles. Et par notre témoignage personnel, par nos vies personnelles, en soutenant le ministère de la proclamation de la parole, et en faisant connaître ce merveilleux évangile. Le Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et nous sommes donc appelés à être les témoins dans ce monde qui est hostile, mais à être les témoins de Jésus-Christ qui s'appuie sur la parole, la révélation que Dieu nous a donnée. Et qui est certaine de s'accomplir. Nous sommes appelés donc à être des flambeaux qui brillent dans ce monde, portant la parole de vie. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous ces véritables témoins, que nous soyons connus comme étant le peuple du livre, qui se tient non pas sur les idées de ce monde, mais qui s'appuie sur cette parole que nous avons reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cette parole qui est certaine de s'accomplir. Cette parole qui est vraie. Cette parole qui annonce le jugement à venir, mais qui appelle aussi à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Cette parole qui est douce, pleine de promesses, et qui réjouit le cœur. Que Dieu donc nous aide à être ses témoins dans ce monde hostile, à être ceux qui s'appuient sur cette parole et pas sur autre chose. Et qu'il bénisse donc sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.